Bienvenue au podcast de Rouen Jeanne d'Arc. Je fais le tour, Moebius Ice chez Rotterdam. Je suis désolé ton pseudo.
Mohand.
Mais.
Mohand.
T'as vu l'insulte?
Moebius Ice, Zigazou, Mohand. Niorg, votre serviteur.
Esclave.
Jonathan et Kirotter. Ouais, là j'ai fait correctement. Alors, au thème de ce podcast, je vous raconterai l'histoire de Chien 93. Voilà. Et je vous expliquerai comment
j'ai...
Voilà. Ensuite, Moebius Eye fait sa chronique USA et Zigazou...
Je m'ai dit que je faisais ça.
Ça s'appelle le dictateur bienveillant. Le dictateur oui. bienveillant a décrété que toutes les semaines...
tu ferais...
Bon d'accord, mais je me mets en recherche.
Et ensuite, Zigazou nous explique la JavaScript et le SVG, comment manipuler...
Le SVG surtout.
Ouais, le SVG surtout. Alors, je vais faire un truc qui est dégueulasse et j'ai honte, je me sens mal à ma peau de faire ça.
Attends, parce que quand lui dit ça, ça risque d'aller très loin quand même.
Alors, Chien 94, c'est quelqu'un dans son numéro de sécu est 166. Voilà, je c'est vous bien. Montre à l'image sa carte d'assurance maladie.
Que tout le monde, évidemment, va voir, puisque c'est un podcast.
Ouais, c'est un podcast audio, justement. C'est pour ça que je ne dis pas les valeurs entières. Grâce à Copain d'avant, je sais qu'il a passé son enfance à Vitry-sur-Seine. Donc là, le lien, il marche pas pour Copain d'avant, mais vous me croyez. Truc hallucinant. Sa femme est un peu moche, je trouve. Hein.
Oui, un peu, c'est l'adjectif que je...
Voilà. Alors là, pour les auditeurs, je vais afficher la carte d'identité de Chien 93, je vais pas citer son nom, et de sa femme.
Oh putain, mais le prénom en plus qui tient.
J'ai trouvé son CV. Du coup, j'ai son GSM, c'est le 06-62-41. Voilà. Sur ton CV, je vois que tu es chauffeur poids lourd. Tu penseras à renouveler ton permis, s'il te plaît, parce que je vois qu'il se périme en septembre 2014, s'il te plaît. Alors, je vous mets le permis de conduire de ce monsieur.
C'est quand même énorme.
Contrôle A, contrôle B. Voilà, son permis de conduire avec sa photo, et vous voyez qu'il périme bientôt.
C'est lui ?
Oui, c'est lui.
Le même ?
Oui, c'est
le même.
Voilà, c'est le même nom de famille, on va pas le citer. Enfin, je mettrai des bips au pire si jamais on fait un accident. Ton compte bancaire, joint, qui est joint avec celui de ta compagne, est chez BNP Paribas, et c'est le numéro 000015. Bah oui, tu m'as même laissé ton RIB.
Oh, c'est énorme.
Voilà. Et j'ai honte de faire ça, j'avoue.
Il n'y a pas à avoir honte, ça s'appelle la sélection naturelle.
Ça c'était quoi?
Ce sont des informations publiques, hein.
Oui, c'est des informations publiques, j'ai dû rentrer au coin de poste pour faire ça. J'ai aussi un certificat de domicile, qui est assez récent, il date de 2012.
D'ailleurs, en fait, il ne montre pas de fichier, on ne peut pas être témoin. Je préfère le dire.
Ta page Facebook est ouverte, en plus. Enfin, le mur, il est ouvert, donc je sais qu'il a un fils et une fille.
Ah, il a pris 8 ans en avant, pourquoi? Vas-y, moi.
Je sais plus, enfin voilà, il y a une pub Facebook. Voilà, et j'ai vu un peu en dessous qu'il avait un fils, une fille. Et je me proposais à son fils ou sa fille de poster ce lien-là vers son, sur son mur Facebook. Donc, alors, ce lien-là. Voilà.
Non.
Voilà, Chien 93, en même t'habites, tu pises un morceau, etc., etc. Alors, comment...
Ah, mais va jusqu'au bout, là, va jusqu'au
bout. Ah ouais, non, montre du tout.
Mais c'est incroyable, ça.
C'est énorme.
Bah. Voilà, donc...
Je l'avais en fond d'écran.
Vous voyez un peu la tête, là. Je crois que j'ai encore le permis de conduire. Vous verrez que c'est bien le même. Voilà, on le voit en train de pisser dans un seau, on le voit en train de à poil avec.
Oh, c'est énorme!
Voilà, c'est...
Le dernier, le dernier!
Oh, non, le seau, on l'a déjà vu, on a fait plusieurs. Le dernier, je crois que c'est. Alors, sa femme était moche, alors je sais pas si c'est le corps de sa femme.
Voilà. Oui, ça ressemble. Voilà. Enfin, du moins la taille du pénis, vu la taille du nez qu'elle avait, je dois correspondre.
Mais comment as-tu trouvé cette page?
J'ai tout simplement, j'ai cherché un visa blog, alors je suis désolé, j'ai pas cité, qui proposait des idées de recherche. Hein. Donc j'ai tapé inurlfree.fr, c'est-à-dire qu'on peut que les sites qui, les adresses qui contiennent free.fr, donc on va tomber sur cette page perso free en fait. Mm-hmm. Je rajoute index of Je rajoute in title index off, c'est-à-dire on va tomber sur les pages à page qui tombent, qui disent les fichiers. Et j'avais rajouté photo perso, je crois.
Photo perso.
Voilà, pour chercher vraiment les trucs perso. Mm. Voilà, j'ai trouvé d'autres trucs, j'ai trouvé beaucoup de rives, etc. Comme ça. Voilà. Et là, lui, par contre,
Il était là. Tu sais, c'est un peu comme dans le dîner de cons, tu vois. Celui-là, c'est un champion du monde.
Ouais. C'est un champion du monde, mais bon.
Voilà, et vous avez vu,
faut quand même pas déconner. Le reste, c'est de l'intime, c'est du perso. Il met quand même aussi ce qu'il veut en ligne, quand même. Faut pas exagérer.
Voilà, ça c'est la page free, donc il n'y a pas d'index, et en fait, il a confondu son espace web free par un espace de sauvegarde perso, quoi. Sauf qu'il a publié des trucs et Google l'a trouvé.
Ouais,
voilà. C'est énorme. Et il y en a plein qui ont fait ça.
Une des bonnes raisons pour ne pas utiliser la page d'ailleurs.
C'est vrai, et cela dit, Orange, j'ai cherché de faire la même manip sur Orange. Par défaut, Orange me interdit de lister un dossier. Ouais, c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de Google hacking.
Ils n'utilisent pas la page d'ailleurs, les pages perso.
C'est
énorme. Voilà. C'est énorme, ça peut être un choix presque délibéré. Il a aussi le droit de montrer son intimité quand même.
Je sais pas s'il a fait volontairement, parce que dessus, il y avait quand même. J'ai aussi trouvé les documents.
Non, mais je suis d'accord, c'est un trou du cul, j'essayais juste de défendre les gens.
Voilà, il y a un document.
On arrête pas de me dire, je suis le méchant, je suis le gros troll, pour une fois, j'ai l'air de sympa.
Voilà, je trouve son cassette, son permis de conduire, je trouvais aussi des documents quand il était en désaccord avec son employeur, enfin, ce genre de trucs-là.
Tu as envoyé les photos à l'employeur en question.
Et j'aurais pu, je connais son nom, je connais tous ses numéros, etc. J'aurais pu, à mon avis, le prénom de ses enfants, je le trouve sur sa page Facebook. Je pense que j'aurais pu aussi attaquer ses mots de passe si j'aurais été méchant. Si j'avais été méchant.
Si j'aurais été méchant.
Ouais, mais je ne suis pas méchant.
Très bon français.
Et je me suis fermé la page du podcast. La suite, c'est un mot et Bussay qui nous fait sa chronique USA.
Yes.
Ah, j'étais en train de chercher des trucs, mais pas le temps. Alors.
Si tu veux, je peux commencer à parler du SVG pendant que je termine.
Ok, on inverse les trucs. C'est SVG et JavaScript. Zigazou, explique-nous tout, s'il te plaît.
Alors, le SVG, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un format de dessin vectoriel. Tu peux me sortir la page Wikipédia?
Je serais mis en lien.
Oui.
C'est un format de dessin vectoriel qui a été initié, normalement, si je ne me trompe pas, par Adobe. Hein? Je cherche Adobe.
Non.
Blanc.
Si, vas-y, descends. Descends, Adobe.
Qu'est-ce qui s'en vient de cette arrivée au test?
Bon, en même temps, il y aurait un seul con qui utiliserait le CTRL-F Adobe, là, ce serait non. Pas dommage.
En tout cas,
non.
Bon, oui. C'est ce que j'ai fait.
En tout cas, c'est un format qui a été, pendant pas mal de temps, supporté par Adobe, donc avec sa suite.
Il a été développé par World Wide Web, comme ça.
Oui, je viens de me jambler.
W3C.
Parce que Adobe aurait pas utilisé depuis XML.
Si, détrompe-toi.
Attends, c'est ouvert le XML, ouvert n'est pas Adobe.
C'est un format vectoriel, oui, j'ai dit Moebius, je te remercie. C'est un format donc, qui permet de décrire des images de façon vectorielle, donc à l'inverse de la façon bitmap. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire les points indépendamment les uns des autres, on va décrire des formes géométriques avec différentes caractéristiques, comme la couleur de fond, la couleur de tracé, et différentes déformations.
Les degrés
de rotation,
de variation de couleur aussi, bien dégradé sur le. Voilà.
Donc, ce format-là a la grosse particularité de pouvoir stocker de façon très, très compacte des formes géométriques simples. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est photographie, c'est un format qui est absolument inutilisable. Voilà. Alors, pourquoi je parle du SVG? Tout simplement parce que depuis Internet Explorer 9, les navigateurs Internet Explorer supportent le SVG en standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installer de plugin, alors qu'avant, jusqu'à IE 8, il fallait avoir un plugin particulier pour pouvoir afficher du SVG.
Dit comme ça, on dirait que Internet Explorer 9 est sorti il y a 10 ans, mais bon.
Or, ce qui est dommage, c'est surtout d'avoir attendu autant de temps, c'est que jusqu'à IE 8, la plupart des autres navigateurs, que ce soit Opera, Firefox, Safari, Chrome, tout ce que vous voulez, supportaient déjà le SVG, dans des versions plus ou moins réduites, mais supportaient le SVG principalement.
Techno web.
Voilà. Alors, le gros avantage du SVG, c'est que, quelle que soit la surface sur laquelle vous l'affichez, il sera affiché de façon optimale. Et un même, ça va même plus loin, un SVG avec les technologies d'écran LCD sera même plus fin qu'une image. Qu'une image bitmap à la même résolution. Pourquoi ? Parce que quand le SVG est affiché, le rendu du SVG est fait au moment de l'affichage. Et donc, les moteurs de rendu sont capables d'utiliser les différents pixels présents sur les écrans LCD pour pouvoir affiner le rendu. Ce qu'on ne peut pas faire, en fait, avec un bitmap, puisque l'affinement dépend, en fait, de l'ordre des pixels, enfin des sous-pixels, sur l'écran.
Et pourquoi on ne peut pas le faire avec un cathodique ? Parce que tu précises les LCD, pourquoi un cathodique, ça changerait
Pourquoi ? Parce que, en fait, sur un cathodique, tu as deux choses. Tu as effectivement le faisceau qui, lui, est très précis, va frapper précisément chaque phosphore de couleur, sauf que tu ne contrôles pas le faisceau directement. En fait, quand tu envoies ton image sur le faisceau, le pixel que toi tu envoies, il va pouvoir tenir sur un ou plusieurs pixels. Donc, quand toi tu adresses une image sur un écran cathodique, tu ne t'adresses pas en fait à des pixels, tu t'adresses à un flux, à un faisceau.
D'accord, donc en fait, ouais, ça dépend de la techno du CRT.
Voilà, okay. Tout simplement. Donc, on a un rendu qui est nickel. Pour la plupart des images simples qu'on peut avoir, par exemple si vous imaginez des graphiques, des diagrammes ou des cartes, eh bien le vectoriel est beaucoup plus performant que le bitmap.
Pour les cartes, fais-les quand même. Hein. Ouais, c'est bon.
Eh bien, écoute, j'ai fait une carte sur www.rendement.fr. Ouais. Tu peux t'aligner, tu peux essayer de faire la même carte en format PNG, tu t'apercevras qu'elle prend plus de place. D'autant que
ta carte a découpé les communes, t'as fait un truc.
J'ai découpé les quartiers. J'ai découpé les quartiers.
Tous les grands systèmes de cartographie n'utilisent que le SVG. Hein. Google Maps c'est du SVG, OpenStreetMap c'est du SVG.
Parce que justement, ça a la particularité de pouvoir s'agrandir et de pouvoir modifier beaucoup plus facilement que du bitmap.
Et puis en plus, aussi la particularité, comme tu balances un point, enfin quand tu as des coordonnées GPS, tu balances un point précis, c'est plus facile de modifier un vecteur pour qu'il passe par un point, plutôt que de après modifier un bitmap et intégrer le point.
Mais ce qui permet de remplacer surtout tous les GIFs animés. Mais c'est ça que je trouvais sympa dans cette technologie.
Alors,
on connaît le Kikou.
Non, le SVG... même avec du JavaScript, ne permet pas de remplacer du GIF animé. Tu peux faire d'animation, mais ça ne remplace pas du GIF animé. Du GIF animé, tu peux mettre de l'image bitmap comme ça. Si tu t'amuses à faire la même chose en SVG, plus d'intérêt. Autant développer un petit script de JavaScript qui va aligner des PNG.
Ouais. Non, parce que justement, un des gros avantages, que j'ai vu, c'est qu'effectivement, les moteurs de rendu ont du mal à zoomer, dézoomer un bitmap, c'est vrai. Maintenant, du coup, tu peux quand même appliquer, un peu comme tu le fais en 3D, appliquer une texture sur une face, par exemple, à terme. Ça demande quand même un code un peu couillu, mais tu peux appliquer par exemple, un PNG. Qui va bouger un petit, qui lui va être déplacé.
Mais c'est un petit peu perdre l'intérêt du SVG qui est de travailler avant tout en vectoriel.
Oui,
animer le SVG, c'est déplacer des morceaux du SVG.
Oui. Alors ça, effectivement, on y arrive puisque tu as décidé que ce serait SVG et JavaScript.
Il y a du tout. Alors, vous pouvez voter, les gars.
Schmil, il faut savoir que la plupart des... de tous les navigateurs qui acceptent l'affichage de documents SVG prennent également en compte la présence de JavaScript dans les documents SVG. C'est-à-dire que dans le document SVG, vous pouvez utiliser JavaScript, accéder au DOM du document SVG pour pouvoir le modifier et profiter de tous les éléments asynchrones qu'apporte le JavaScript. Encore plus fort, c'est que depuis le JavaScript du SVG, vous pouvez accéder aux éléments du document HTML qui contient le document SVG.
Excusez-moi.
Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que quand vous avez du JavaScript, vous pouvez accéder aux paramètres qui peuvent être donnés à un objet en HTML. Donc, comme en Flash, on avait object, le nom du fichier Flash, puis à l'intérieur, on avait param. Là, on peut accéder à tous ces params pour modifier le SVG en conséquence. Donc ça permet par exemple de faire des cartes complètement paramétrées. Oui. Avec des chiffres, on peut même imaginer de faire des graphiques qui vont avoir un style donné, mais qui vont, sur lesquels on va pouvoir dire, ben voilà, le mois de janvier va faire tant, le mois de février va faire autant, etc. Sans remodifier à chaque fois le SVG.
Après, ça a quand même le défaut, du coup, enfin, justement, c'est pour ça que je préfère Smin, c'est que un SVG que tu génères avec du JavaScript dedans, tu peux pas utiliser toutes les propriétés que t'as mis si tu le mets dans un visionneur d'image en local, alors que si tu mets du Smin, tu vas pouvoir plus facilement voir l'animation. Par exemple, si t'animes ton objet par du JavaScript,
tu passes où d'ailleurs dans le... Tu vas dans le SVG ou sur la page web?
Dans le SVG. Tu le places dans une balise script à l'intérieur du XML du SVG.
Ou dans la page web, si tu veux. De toute façon, c'est plus chiant, mais tu peux. Bah si, parce qu'en fait, de toute façon,
si tu as le droit d'accéder au DOM comme ça aussi facilement.
Bah quand tu... De toute façon, tu peux même mettre ton SVG, tu peux le mettre sous forme XML directement dans la page sans importer du... un point SVG, et à partir de là, de toute façon, puisque le code est dans la page...
À partir du moment où ton doctype de HTML t'autorise à le faire.
Oui, ça oui. Mais tu peux du coup modifier en live avec le JavaScript. Oui. Tu peux modifier directement tous les paramètres, tous les...
Oui, dès l'instant, effectivement, le document fait partie intégrante du HTML. Ça, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus.
Et puis au moins avec le SMIL, tu peux avoir quelque chose qui fonctionne en dehors du navigateur. Alors quand tu crées des animations ou des n'importe quoi, des events ou peu importe, à partir du JavaScript, du coup, ça ne peut fonctionner que dans un navigateur web ou
la question après sur laquelle je n'ai pas testé, c'est de savoir si ton SMIL dans une page HTML sera pris en compte.
Alors pas à tester sous IE9, excusez-moi. Sous Firefox, il n'y a pas de problème.
Oui,
sous Firefox.
Comment ça, je ne peux pas tester sous IE9, ça.
Sous Firefox, après, tu as Opera
et tu as Wine. Non, parce qu'avec Wine, on peut installer que jusqu'à IE8, on ne peut pas installer IE9 dans Wine.
Donc, tu as ça. Et alors, un outil libre, donc ça ne fera pas plaisir à tout le monde ici, qui permet...
Peut-être pas Gnar, il faut faire gaffe.
un outil libre qui permet justement de manipuler le SVG et de pouvoir intégrer directement du code JavaScript dans le balisage XML, c'est Inkscape.
Ouais, que j'ai encore un peu du mal à utiliser, mais je suis trop habitué à l'équivalent libre d'AutoCAD, QCAD, ou maintenant il y a un autre nom, c'est LibreCAD.
Ah oui, mais c'est pas la même chose.
Ouais, c'est pas du tout la même utilisation. Moi j'ai l'habitude de faire des plans et pas des dessins.
Voilà, ouais. Moi, franchement, j'ai commencé effectivement dessin vectoriel sous Inkscape et j'arrive très facilement à faire ce que je veux, à trouver mes marques. Je le trouve assez ergonomique.
Il est assez ergonomique.
Je trouve même plus ergonomique que
Ouais, GIMP. Mais j'ai aussi pété le stylo dans ta
lame. Attends, est plus ergonomique que GIMP, ça relève un peu du.
GIMP, il fait ce qu'on. Oui, c'est un truc de traitement.
Oui, mais enfin, d'ergonomie.
Franchement, moi, j'aime bien Inkscape et effectivement, il a un éditeur XML intégré. Et ça ne gêne pas en fait que tu viennes rajouter des balises ou même que tu viennes rajouter des attributs à ces balises.
Oui, donc ça c'est cool. Ouais,
après, Inkscape a quand même le défaut, comme beaucoup de logiciels, comme il fait pléthore, du coup, t'as pléthore de menus, t'as pléthore de sous-menus,
Oh, il reste simple. Franchement, c'est pas Illustrator.
Non. Je t'avouerais que j'ai jamais été assez masochiste pour l'installer.
Moi, tu vois, Illustrator, j'ai déjà testé sur des postes de graphiste. Waouh! Quand tu te prends un plan, on a des plans à la ville, donc des plans qui ont été faits sous Illustrator depuis des années pour pouvoir faire des plans sur les dépliants. Le nombre d'outils qui sont disponibles sous Illustrator, c'est de la démence à un moment donné. Et avant de maîtriser un outil comme ça, il va se passer plusieurs années. Inkscape, il reste simple au niveau de ses outils et il est facilement accessible.
Alors, je voulais vous montrer un truc. Le diaporama, juste avant qu'il l'ait fait.
Juste avant.
qu'il l'ait mis en place.
Juste avant.
Merci.
Je voulais terminer sur le fait que dans Inkscape, justement, il y a possibilité d'installer un plugin qui va permettre de nettoyer le code XML pour une mise en ligne sur le web, donc d'alléger au maximum le code XML.
Deux présentations.
Et effectivement, on obtient des très très bons résultats parce que, par exemple, Inkscape a tendance à mettre des identifiants à quasiment toutes les balises.
des identifiants en fait qui servent à rien la plupart du temps. Et donc le plugin permet notamment de virer tous ces identifiants là. Permet vraiment d'alléger au maximum et de produire un SVG qui tournera sur la plupart des.
Ça, je veux bien que tu balances le nom parce que c'est vrai que l'XML généré par Inkscape, souvent, je le trouve bien moche. Et même pas forcément pour le publier sur une page web, mais ne serait-ce que pour le retravailler à la main, l'XML, ne serait-ce que là, ce serait bien de faire un petit nettoyage.
Je n'ai pas en tête là, le nom de ce plugin, mais je pourrais te l'ordonner, il n'y a pas de souci. Donc là, pendant qu'on a terminé. Donc, JavaScript et SVG.
Ouais. Puis après, quand même, il y a un truc à dire sur SVG.
Ah, on n'était pas terminé alors.
Bon, on a quand même le gros avantage, quand même, comme on a du XML, on a aussi l'énorme avantage de pouvoir générer l'image très facilement à partir d'un morceau de code qui nous fait des calculs, qui nous fait et qui, du coup, nous.
On peut aussi générer à la volée, c'est ça que tu veux dire.
Bah, tu peux générer à la volée. Dans le cas des cartes, par exemple, tu peux vraiment, à partir de n'importe quelle donnée GPS reçue, tu peux modifier la carte à l'instant même. Tu peux, t'as pas de régénération d'images qui sont souvent fastidieuses et gourmandes, puisque là, c'est jamais qu'une génération de texte et il vient de placer une nouvelle balise entre deux. Voilà.
D'autant que.
Ce qui est un des gros avantages quand même du SVG par rapport, même si on veut pas faire du vectoriel, si on veut juste faire de l'image, du logo, du n'importe quoi, ça a quand même un énorme avantage par rapport à toutes les images bitmap, c'est que.
Je vais vous faire une image, je vais faire mes captcha comme ça.
Pour terminer sur le JavaScript, l'un des gros avantages du JavaScript quand vous êtes en SVG, c'est que pour tous ceux qui ont fait du JavaScript et donc et la manipulation du DOM sous HTML, vous allez retrouver complètement vos marques sous SVG. Parce que vous retrouvez avec face à un DOM, vous utilisez les mêmes outils, get attribute, set attribute, get element by ID, etc. Donc vous êtes vraiment en terrain mais complètement connu.
Pour les films hurler.
Ah non, qu'est-ce que je voulais dire, c'était une connerie, je sais plus, j'ai oublié.
Captcha.
Oui, qu'on peut faire des captcha en PNG.
Voilà. Bon, tu hurles avec moi ou je hurle tout seul?
Moi je hurle pas, je frappe.
Bon d'accord. Enfoiré, connard. Vive le communisme.
Non mais honnêtement, en ce moment je reçois 50 spams par jour qui passent sur mon blog. Et j'hésite à mettre un captcha, même si c'est dégueulasse pour les handicapés, mais en même temps, les handicapés, ils n'ont qu'à pas venir commenter mon blog.
Mais je veux dire, en même temps, bon.
Pour les déficients visuels. Parce que j'en ai mis des systèmes de. Voilà. Non, mais c'est chiant de connecter sur ton blog et de passer un quart d'heure à faire le. Enfin, je galère un peu, de passer 10 minutes à faire le tri entre les commentaires désirables et regarder si tout est derrière, pas dans les commentaires. Quoi. Dans ce qui est passé.
Sous WordPress
Non, Docker. Mais non, c'est le mieux. Docker. Et je suis sur l'installation Docker multi-blog, c'est-à-dire que j'héberge des blogs, d'autres blogs, quand je mets le mien à jour, ça met tout le monde à jour. Mm-hmm. C'est ça aussi. Du coup, j'ai un peu moins de failles sur mon serveur.
Je note que quand tu as commencé à vouloir taper Docker, il t'a proposé Doctissimo.
Oh, l'horreur.
Donc, par contre, non. Alors, Niark. Va falloir que. Remonte. Va falloir qu'on t'apprenne, quand on redimensionne des images,
oui.
À garder l'homothétie.
J'ai mis un max 8, voilà, je comprends ça. Max 8, 100%.
C'est. Ça agresse, quelque part.
J'avoue, mais là je suis sur un écran trop petit, parce que normalement c'est fait pour du. Alors j'avais refait le design de mon blog à l'époque où on pensait que les écrans d'ordinateur allaient grandir. Et arrivé là, un peu plus tard, il y a eu le téléphone mobile qui fait qu'en fait, ils ont rétréci.
Alors, si tu veux mon avis, les écrans ne grandiront pas plus. À la rigueur, on mettra plus de points, mais ils ne grandiront pas plus.
Peut-être que oui, quand même, parce que ne serait-ce que parce qu'on a de plus en plus tendance à utiliser les téléviseurs.
Oui, mais tu vas généralement t'éloigner.
C'est moins agréable.
Voilà, parce que, en fait, si tu veux, ça répond physique à un problème, à une contrainte physique. C'est comme le clavier. Le clavier, si tu le fais trop petit, c'est inutilisable. Si tu le fais trop grand, tu passes ton temps à survoler. L'écran, c'est pareil. Si tu as un écran qui fait 3 mètres de large, tu ne peux pas être devant. Tu vas forcément te reculer par rapport à ton écran.
Oui.
Donc, tu as toujours dans ton champ de vision une surface maximum.
Oui, dans cet écran.
Voilà. Donc, effectivement, quand on était avant sur des écrans, je fais encore mon vieux de la vieille. Quand on était avant sur des écrans au tout début 14 voire 12 pouces, parce que les premiers écrans aux couleurs d'IBM PC, c'était du IBM PS2, c'était du 12 pouces,
Il y avait même sur certaines machines du 10 pouces cathodique.
Là, effectivement, tu pouvais dire, bon, l'écran va grandir. Effectivement, on est monté jusqu'au 21 pouces, voire un peu plus grand, pour les 16 neuvièmes en tube cathodique. Mais tu remarqueras que, déjà, au-delà du 22 pouces, 24, 26 ou 28 ou 12 pouces, ça commence à faire un truc énorme sur le bureau et tu ne seras pas devant, tu vas te reculer.
Non, moi, j'ai plein d'utilisateurs qui ont mis un grand écran, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diminuer la résolution pour avoir des trucs plus gros et c'est bon. Ça m'énerve.
Mais non,
non, au contraire,
c'est un peu fort.
Oui, c'est encore fort pour eux parce qu'ils n'ont pas la même vue que moi.
Et puis non, après en plus c'est vrai qu'on remarque quand même que de toute façon maintenant la grande mode pour augmenter la surface d'affichage c'est de multiplier les écrans quoi.
Ah oui. Et juste en attendant que Moïse, c'est fini. Alors c'était juste la petite info que je suis en train de voir sur mon blog, c'est que le choix du navigateur, quand un interface choisissait votre navigateur sur Windows, j'ai vu sur plein de blogs etc que il supposait que Internet Explorer, enfin Microsoft avait bien calculé que la cinquième place ou la quatrième était celle la plus cliquée. Et arrivé là, non, en fait, c'est généré aléatoirement. J'ai vraiment fait plusieurs essais, à chaque fois ça change la disposition.
Tu vois,
mais ça on s'en fout.
Tu vois, c'est un truc qui me dégoûte un petit peu. C'est qu'on a fait la chasse à Microsoft pour dire il faut que vous installiez le choix du navigateur sur lors de l'installation de votre système. Et qu'on ne fait absolument pas la même chose pour Apple, pour Mac OS X, alors qu'il y a plusieurs navigateurs sur Mac OS X.
Et moi je dis sous Linux, le double baguette qui est installé par défaut, c'est une honte.
Bon, est-ce qu'on attend la fin du podcast? Non. Est-ce qu'on attend la chronique pour lui signifier qu'on ne veut plus jamais le revoir, ce mec?
La chronique, c'est ça.
On choisit de lui jeter l'opprobre de façon publique.
Mauvais bus, la chronique, mauvais bus, la chronique.
Et où est-ce?
Bon, c'est fait, voilà. Bon. Alors, je voulais vous parler du procès intenté à Parallelron par Rackspace cette semaine. C'est un procès qui concerne le logiciel Hadoop de la Apache Software Foundation. Donc, c'est un framework qui permet la distribution du traitement de grandes masses de données dans un cluster. Donc voilà, Rackspace a intenté un procès à Parallelron en la désignant au passage comme le plus connu des patent trolls des États-Unis. Ce qui est vrai, en fait. Et donc, Hadoop, c'est un logiciel open source qui est utilisé par Google, Facebook, et j'en passe. Et le brevet concerne l'implémentation du process de traitement des données distribuées. En fait, c'est pas l'utilisation du logiciel qui est mis en cause, c'est le process... j'ai fait typo. C'est pas l'utilisation du logiciel qui est mis en cause, mais l'implémentation qui en est faite. C'est en fait HDFS, qui est un système de fichiers très performant.
Ça permet d'écrire des très longs fichiers.
Je suis pas rentré dans les détails, on a eu 10 minutes en gros. Quoi. Parallelron a obtenu le brevet sans faire l'implémentation en fait, de HDFS. Avant que HDFS soit créé par la Apache Software Foundation. Et donc il y a Google ensuite qui a répondu à ce procès en conseillant à tous ceux qui utilisent HDFS de suivre Rackspace dans leur procès et de intenter un procès également.
Oui, ils s'allient pour faire un contre-procès, c'est ça un peu l'idée, hein.
Parce que sans implémentation, on considère que,
pas de, le brevet n'est pas valide. Voilà.
Mais pourtant, ils ont bien obtenu leur brevet.
Oui, mais alors ça, aux États-Unis, justement,
le brevet, c'est un enregistrement. Brevet,
c'est un enregistrement, et c'est en plus en fait, l'officine qui gère les brevets aux États-Unis est payée uniquement par ceux qui fournissent les brevets. Mmh. Donc plus on lui fournit le brevet, plus l'officine reçoit d'argent et plus elle est contente. Mmh. Et donc c'est pour ça que pendant pas mal de temps, elle a eu tendance à accepter beaucoup de brevets. Sans bien souvent savoir réellement de quoi il retourne. Sachant qu'avec la législation aux États-Unis, généralement, ça se termine toujours au tribunal.
Et c'est le tribunal qui valide le brevet.
Voilà, exactement. Et c'est au le tribunal qu'on vérifie vraiment si le brevet est valide.
Et là, sans implémentation, je ne leur donne pas longtemps avant de se faire éclater. Enfin, j'espère.
Nespresso avait posé un brevet sur la forme de la capsule en 1979, un peu comme ça. Enfin,
Bon, bah voilà.
Ok, bon ben voilà, on se dit à la semaine prochaine ou dans deux semaines, ça dépend du rythme.
Salut.
Salut.
Salut.